au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie qui se propose dans cette émission de vous faire découvrir un auteur du Moyen-Âge, Philippe de Mézières, avec un auteur médiéviste, Philippe Contamine, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres que j'ai le plaisir de recevoir dans notre studio. Monsieur Contamine, bonjour.
Bonjour.
C'est d'un autre Philippe que nous allons parler car vous avez publié pour la Société de l'Histoire de France et avec Jacques Paviot un texte de Philippe de Mézières, un texte dont le titre emploie des mots que vous allez nous aider à déchiffrer. Le titre, une épître lamentable et consolatoire, adressée en 1397 à Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, sur la défaite de Nicopolis. Alors voilà, une épître lamentable et consolatoire. Déjà ces mots, ça fait un petit peu songer.
Nous avons tenu à maintenir ce titre dans le titre même de l'ouvrage parce qu'il se trouve dans le manuscrit qu'on a conservé. C'est un manuscrit qui est à l'heure actuelle à la Bibliothèque royale Albert Ier à Bruxelles. Et c'est un manuscrit assez soigné, exactement contemporain, 1397, et que Philippe de Mézières a offert à Philippe le Hardi. Épître lamentable et consolatoire, c'est une lettre pour le consoler, mais en même temps pour déplorer une défaite des chrétiens, la défaite de Nicopolis, qui avait eu lieu l'année précédente, en septembre 1396. Et au cours de cette défaite, non seulement un grand nombre de chevaliers chrétiens, surtout français, avaient été tués par le Turc ottoman, celui qu'il appelle la Mourad Bakin, mais encore le fils aîné de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, Jean, le futur Jean sans peur, avait été fait prisonnier par le dit Amourad Bakin, Bayezid II. Alors Philippe de Mézières lui dit, premièrement, tout n'est pas perdu. Deuxièmement, cette défaite, cette déconfiture. Pour employer son terme.
Journée lacrymable.
Lacrymable, voilà. C'est sa manière de faire. Et donc, cette journée lacrymable, cette déconfiture était prévisible, parce que les chevaliers français étaient indisciplinés, ils ne suivaient pas les bonnes règles de la discipline de chevalerie, dont Philippe de Mézières, comme d'autres, est pénétré. Et puis, il y a eu des circonstances particulières qui ont fait que l'armée des Français, au cours de ce voyage de Hongrie, puisque c'est ainsi qu'on l'appelait, a subi cette terrible défaite. À une époque où les Turcs ottomans, Bajazet, Bayezid II, poursuivaient leur avancée à travers l'Europe balkanique, ce qui va devenir l'Europe balkanique. Nous sommes quelques années avant la prise de Constantinople, qui a eu lieu, comme vous le savez, en 1453. Alors Philippe de Mézières va dire à Philippe le Hardi, premièrement, cette défaite, je l'avais prévue. Deuxièmement, c'est tout à fait regrettable que votre fils ait été fait prisonnier, mais d'une façon ou d'une autre, rien n'est tout à fait perdu. D'abord, votre fils, on arrivera sans doute à le racheter, ou bien on ira le chercher. Et puis ensuite, eh bien, il s'agira de lancer une sorte de contre-offensive, une croisade, pour reprendre les terres que le Turc a conquises sur les chrétiens et éventuellement pour annihiler, c'est peut-être pas très politiquement correct ce que je vais dire, la race détestable des Turcs, n'est-ce pas?
Oui, enfin, la génération, dans la mentalité
la génération,
de l'époque.
La génération détestable des Turcs, c'est comme ça que,
c'est disons, comme ça qu'il l'exprime.
Les Français, les chrétiens de la fin du XIVe siècle jugeaient cet envahisseur, malgré tout, cet infidèle envahisseur.
car nous sommes en effet à l'époque des croisades, et d'ailleurs maintenant nous allons parler de Philippe de Mézières lui-même. D'abord, il s'appelle de Mézières, mais il n'est pas né à Mézières, justement.
Eh bien, il est... je ne crois pas. Je pense qu'il est né pas loin de là, à Amiens. Mm-hmm. À Amiens, mais enfin, je n'en suis pas tout à fait sûr. Il se trouve que Philippe de Mézières est un Picard, originaire de la petite noblesse picarde. Et Mézières, c'est Mézières-en-Santerre. Donc c'est une petite localité, Mézières-en-Santerre. Et donc il porte le nom à la fois de ce village dont sa famille est originaire, où il y avait un château. Il en parle du reste en assez mauvais état. Et d'autre part, le nom de ses parents. Voilà. Alors, il appartenait à une famille nombreuse, parce qu'il raconte tout cela. Il est à la fois prolixe, discret, et en même temps, ici ou là, dans ses très nombreux écrits, en latin et en français, certains de ses écrits, surtout en latin, sont encore inédits, parce que peut-être ils sont un peu difficiles d'accès, il raconte des bribes de son parcours, mais de façon souvent un petit peu indirecte, si bien qu'il faut interpréter. Alors, en interprétant, on a l'impression qu'il est originaire, sa famille est originaire de Mézières, mais qu'il a été baptisé et sans doute éduqué à Amiens. Dans les années 1325, puisque je le fais naître en 1325, peut-être est-ce 1327. Donc nous sommes au début du XIVe siècle. Le XIVe siècle, c'est le siècle de Philippe de Mézières. Il l'a vécu tout au long, puisqu'il meurt en 1405, octogénaire, ce qui à l'époque est assez rare. Oui. Alors il a parcouru son siècle et il en a vécu les réussites, mais surtout les drames.
C'est surtout méritoire pour lui d'avoir vécu tout ce siècle parce que c'était un homme de guerre. Il a participé à beaucoup de batailles, de croisades, justement.
Je pense que c'est un homme complet. Autrement dit, donc, il est noble, c'est un laïc. Je crois qu'il est resté toute sa vie laïc. Bon, et il s'est battu. Il s'est battu notamment en Orient. Il raconte nous-mêmes qu'il a été laissé pour mort sur le champ de bataille à partir de 1345. Et puis il s'est battu également en France dans le cas de ce qui allait devenir la guerre de Cent Ans. Et puis il s'est battu également peut-être à Alexandrie et ailleurs encore. Donc c'est un authentique homme de guerre, un authentique chevalier. C'est, disons, l'une de ses caractéristiques.
Mais c'est
le
aussi,
chevalier Philippe de Mézières. L'infime chevalier, infimus miles, Philippus des Picardia. Bon. Et puis en même temps, c'est quelqu'un qui a une grande culture de type universitaire. On l'a découvert il y a quelques années et il a suivi des cours, un enseignement à l'Université de Paris. Et on voit bien dans ses écrits que d'abord, il maîtrise bien le latin, assez bien le latin, non seulement il le lit, il le comprend, y compris le latin de Pétrarque, qui est un latin humaniste, car il était un ami de Pétrarque. Il a une culture biblique, naturellement. Il connaît suffisamment les auteurs de la scolastique. Et puis, il connaît l'histoire profane, l'histoire sacrée. Et il se nourrit de cette histoire profane et sacrée dans les livres qu'il a pu composer. Donc, quelqu'un qui a une belle culture. Et puis, en troisième lieu, c'est quelqu'un qui est un homme de pouvoir, puisqu'il a été chancelier du roi de Chypre. Pierre Ier de Lusignan, oui. Roi de Chypre et de Jérusalem, pour lequel il avait une très grande admiration, de l'affection, de l'admiration. Il a été conseiller de Charles V, l'un des conseillers proches de Charles V. On peut parler, comme Françoise Autran l'a fait, du club Charles V, un club d'intellectuels, un think tank, comme on dit, n'est-ce pas? Donc il appartenait à ce think tank, donc ce n'est pas indifférent. En même temps, c'est un dévot.
Voilà, il faut donner sa dimension spirituelle
aussi. Un dévot, c'est extrêmement important. Et ce dévot a réussi à convaincre la papauté d'introduire, de quasiment introduire, dans la liturgie de la chrétienté latine occidentale, une fête qui était très répandue en Orient, mais presque inconnue en Occident, c'est la fête de la présentation de la Vierge au Temple. Et il est parvenu à ce but. Et donc finalement, à partir de 1372, eh bien, cette fête est reconnue officiellement par l'Église latine, par la papauté, par Charles V et quelques autres. Donc c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire.
Complet, oui,
et puis en même temps, en raison de sa sagesse, en raison de sa prudence, etc., Charles V lui a confié, ou lui aurait confié, c'est pas dit plus net, mais disons l'éducation intellectuelle, sinon morale, de son fils et successeur, Charles VI, le futur Charles VI. Donc ça a été le mentor, le précepteur de Charles VI. Et puis également, il faut ajouter que à la fin de sa vie, il s'est retiré pendant un quart de siècle, 1380-1405, dans un couvent parisien, le couvent des Célestins, près de la caserne des Célestins, du boulevard des Célestins, etc. Il ne reste pas de vestiges, mais on pourrait détruire cette caserne pour faire quelques fouilles. Mais en tout cas, il s'est retiré là. Comme il avait quelques moyens, il avait son propre domaine, une chambre, deux chambres, des serviteurs. Nous connaissons le nom de ses serviteurs, puisqu'il leur a laissé certaines sommes par testament. Un cloître, une fontaine, une infirmerie, voyez-vous. Donc, il était retiré. C'était un solitaire. Il se présente comme un pèlerin, comme un solitaire. Mais également, tout proche du pouvoir, parce que l'un des centres du pouvoir royal à cette époque, c'était l'hôtel Saint-Paul, juste à côté. Donc, on pouvait faire le va-et-vient et venir le consulter, lui demander des conseils pour tel ou tel domaine. Donc, je considère que c'est un homme complet, un super homo, chose de titre, un super homo à la mode du XIVe siècle.
À la mode du XIVe siècle. Merci, Philippe Contamine. On va marquer une courte pause pour écouter une petite musique de cette époque qui nous replongera dans cette atmosphère avant de nous retrouver dans un instant.
Ave Virgo singular, quae per promum designatis, non paras un incendio. Ave Rosa speciosa, ave Iesse Virgo.
Nous revenons dans notre studio en compagnie de Philippe Contamine qui a publié pour la Société d'Histoire de France une épître lamentable et consolatoire adressée à Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, après la défaite de Nicopolis. Et donc, je voudrais maintenant que vous parliez de cette expérience que Philippe de Mézières a vécue quand il est allé à Jérusalem, 1347, je crois, une expérience mystique qui a changé sa vie d'une certaine façon.
En tout cas, il le dit.
Il le dit.
Il le dit, et donc, il le dit, mais il le dit bien longtemps après. Bon, enfin, peut-être qu'il a enjolivé ses souvenirs, nous ne comprenons pas très très bien. Mais en tout cas, le fait est qu'en 1346-1347, il y a une croisade sous la caution de la papauté, et c'est une époque de changement. Une époque de changement, disons, dans toute la stratégie orientale, parce que l'Orient est divisé en deux espaces, politiques et militaires. D'une part, il y a les Mamelouks du Caire, ce qu'il appelle le Sarrasin, le Soudan de Babylone, Babylone c'est le Caire, qui sont assez tranquilles en Égypte et qui sont les maîtres de Jérusalem, du reste, mais qui, de façon, disons, assez libérale, acceptent que des pèlerins se rendent à Jérusalem, au tombeau du Christ, au Saint-Sépulcre. Et puis d'autre part, il y a les Turcs ottomans qui sont en pleine expansion. Et en 1346-1347, il y a une expédition menée par Humbert II, dauphin de Viennois, contre les Turcs ottomans. Et c'est à cette expédition qu'appartient Philippe de Mézières. Et c'est ainsi qu'il a fait là, je ne dirais pas ses premières armes, mais il a participé à une grande bataille contre les Turcs du côté de Smyrne. Il a été blessé. Et puis ensuite, il s'est dit, après tout, je suis sur place, je vais faire mon pèlerinage à Jérusalem. Alors ça a été une expérience extrêmement forte parce qu'il a considéré intolérable le fait que Jérusalem, la ville sainte, la ville du christianisme, etc., la ville de la passion du Christ, soit possédée par des infidèles. Et donc, il a eu à ce moment-là, nous dit-il, une sorte d'illumination, comme Moïse au mont Sinaï, et à l'issue de cette illumination, il a reçu, comme Moïse, les tables de la loi, écrit par le doigt de Dieu, c'est ce qu'il dit, les tables, la règle d'un nouvel ordre de chevalerie, d'une religion de chevalerie, comme le temple, comme l'hôpital.
Oui, un nouvel ordre.
Et donc, il s'est dit, ma vocation, c'est de créer ce nouvel ordre de chevalerie. Et donc, par intermittence, mais de façon tenace, entre 1346, 1347 et la fin du XIVe siècle, il en parle encore en 1395, 1396, il va s'efforcer de réunir les fonds, les bonnes volontés, les appuis politiques, les appuis spirituels nécessaires, indispensables, pour créer ce nouvel ordre de chevalerie, alors que autour, il y en avait d'autres. Mais il considère que les ordres de chevalerie qui existaient alors, et notamment l'hôpital, ne faisait plus l'affaire. Le temple, on n'en parle plus, puisqu'en 1311, 1312, le temple a été dissous. Donc il y avait encore les chevaliers de l'hôpital, les chevaliers de Rhodes, ceux qui sont devenus les chevaliers de Malte. Mais ils considèrent, non, ce n'est pas tout à fait ça, il faut trouver quelque chose de nouveau. Et donc, il va créer cet ordre de chevalerie, l'ordre du crucifix ou l'ordre de la passion de Jésus-Christ.
Voilà, pourquoi la milice de la passion.
Pourquoi, voilà pourquoi la passion de Jésus-Christ ? Parce que en entrant dans cet ordre, on se pénétrera de la passion de Jésus-Christ et il y aura une sorte de transformation interne et on comprendra que le but des chrétiens, c'est de libérer le tombeau du Christ, de libérer l'endroit où le Christ a subi sa passion. D'où le terme qu'il a donné à cet ordre. Alors, il en distribue, il y a des pages et des pages pour évoquer le détail de l'ordre. Et cet ordre, c'est ça ce qui est une grande caractéristique, c'est une société complète. Autrement dit, il y a des clercs, des chanoines, un archevêque, etc., des prêtres. Il y aura des chevaliers qui seront l'ossature, puisque c'est un ordre militaire, dont le but est de reconquérir la Terre Sainte, la terre de promission, comme il dit. Il y aura également des frères, et ces frères seront issus de la classe moyenne, les bourgeois, les rentiers. Et puis il y aura également des sergents qui sont issus de la classe des travailleurs, des rustiques.
Oui, donc, voyez-vous, donc
c'est
toute
une société.
Oui.
Et non seulement cette société comporte les quatre états dont se compose toute société, nous dit-il, mais encore, c'est non pas les prêtres, mais les chevaliers, les frères, les sergents seront mariés. Et par conséquent, cette société se reproduira.
Oui, c'est une nouvelle version, une nouvelle vision d'un ordre de chevalerie.
Donc c'est quelque chose d'assez original, même si ça n'a jamais eu vraiment lieu, si vous voulez. C'était assez bien pensé. Alors il disait, c'était ça son idée, il disait que cette société choisie, élue, etc., sous l'inspiration du Saint-Esprit, avec la passion devant les yeux, donc présentera une sorte de modèle de société chrétienne purifiée. Et ce modèle, eh bien, de proche en proche, il aboutira à la réformation générale de la chrétienté.
Mais alors, c'est resté à l'état d'une utopie ou d'un rêve, car elle n'a jamais vu le jour.
Quasiment. Elle n'a jamais vu le jour. Alors, dans les années 1385-95, il a eu bon espoir. Et il a réussi à trouver une centaine de personnes qui s'étaient plus ou moins engagées à adhérer à son ordre ou à aider son ordre, recruter à travers la chrétienté. Il y avait des Français, bien sûr, mais il y avait également des Castillans, des Navarrais, des Catalans, des Anglais, des Écossais, que sais-je. Et nous avons conservé, dans un manuscrit qui est à la bibliothèque de l'Arsenal, la liste de cette centaine de personnes qui avaient, en principe, fait vœu d'adhérer à cet ordre. Alors, pourquoi est-ce que ça... Quel était l'obstacle ? Eh bien, l'obstacle, c'est évidemment, disons, « Ah, la croisade, c'est loin, c'est coûteux, c'est dangereux, etc. Ce n'est plus à la mode. » Et puis, il y avait un autre élément très important pour lui. Donc, la croisade ne pouvait pas avoir lieu sans l'appui des princes, sans l'appui des rois. Or, les rois étaient engagés dans ce grand conflit qu'il
appelle la guerre de 100 ans.
Grande plaie occidentale, qu'on appelle guerre de 100 ans. Donc, il fallait d'abord, prioritairement, réconcilier les rois, le roi de France, le roi d'Angleterre, Charles VI, Richard II. Et donc, il y a de sa part toute une diplomatie de l'apaisement de façon à convaincre les deux rois, leur entourage, de se réconcilier, de faire la paix, moyen des concessions réciproques, et de partir ensemble vers la Terre Sainte, et puis son ordre de chevalerie sera comme un fourrier qui précédera la grande armée des rois et qui montrera la voie, qui ouvrira la voie, qui débarquera, qui servira, disons, pour maintenir dans la possession des chrétiens le royaume de promission, comme il dit, la terre promise, ainsi reconquise. Donc tout ça est
voilà,
à la fois utopique et logique.
Utopique et logique, et bien voilà. Organisé et bien pensé, en effet. Philippe Contamine, mis à part cette rédaction des règles de cet ordre utopique, justement, Philippe de Mézières était aussi un écrivain très prolixe, mais un écrivain, j'allais dire, profane. Enfin, il écrivait des poésies.
Des poésies, je ne crois pas qu'il en ait publié, en tout cas, ce n'est pas sûr, mais il a, disons, écrit des travaux, des écrits de spiritualité, l'Oratio Tragédica, le Soliloquium Peccatoris, la Contemplatio Ore Mortis, bon, qui sont des travaux très intéressants, mais vraiment ressortissant à la littérature spirituelle. Mais sa grande œuvre, la plus répandue, toute proportion gardée, c'est « Le songe du vieil pèlerin ».
C'est une œuvre qui a eu du succès en son temps
Relativement.
Enfin, toute proportion gardée,
on a
sûr.
Quelques manuscrits, il ne faut jamais exagérer. Mais enfin, on a environ une dizaine de manuscrits de cette œuvre, ce qui n'est quand même pas mal. Et puis ensuite, c'est une œuvre d'accès un petit peu difficile. Donc ensuite, cette œuvre est passée de mode, n'a jamais été imprimée avant le XXe siècle. Même. Donc on consulter le songe du vieil pèlerin, ici ou là, des érudits et tout, l'abbé Leboeuf au XVIIIe siècle, puis au XIXe. Et puis, en 1969, il faut attendre 1969, il y a un auteur anglais, George Coupland, qui en a fait une édition. Et une autre édition est en cours de préparation par Joël Blanchard, donc je voudrais la signaler, ce ne sera pas pour demain, mais enfin, Philippe de Mézières peut attendre. Et d'ores et déjà, Joël Blanchard a publié une sorte de version, en français modernisée du songe du vieux pèlerin, que là aussi, je me permets de signaler pour l'intérêt de l'auditeur.
Alors, pour notre Philippe de Mézières dont nous parlons, c'était effectivement une période douloureuse à cause aussi du schisme. De quel côté a-t-il penché par rapport aux deux papes? Alors, il a pris celui d'Avignon ou celui de Rome?
Il a pris celui qu'il considérait être le vrai pape, qui aujourd'hui n'est plus considéré comme le vrai pape. Mais enfin, il a suivi la voie du roi de France, Charles V, et puis ensuite de Charles VI. Donc, il a considéré que le pape de Rome, Urbain VI, n'avait pas été librement élu, qu'il avait été élu sous la contrainte, sous la pression, et par conséquent, il était du côté de Clément VII, de l'antipape Clément VII, si vous voulez, qui, selon lui, avait été élu librement par les cardinaux. Donc, dans cette affaire du schisme, il est clair qu'il est du côté des clémentistes. Bien, c'est important, parce qu'évidemment, il se rend bien compte que, pour relancer la croisade, non seulement il faut mettre fin à la guerre de Cent Ans, mais encore il faut mettre fin au schisme. Et ça, il n'a pas tellement de solutions.
Vaste programme, tout de même.
Vaste programme. Oui, oui. Il n'y a pas tellement de solutions. Je crois qu'au fond, il avait cette idée, comme un parti de l'entourage de Charles VI, il faut aller en Italie et puis renverser quasi manu militari le pape
l'intrus.
De Rome. Et comme ça, l'intrus, et comme ça, l'unité de la chrétienté catholique sera rétablie.
Philippe Contamine, avant de nous quitter, un dernier petit mot sur l'épître elle-même, l'épître lamentable et consolatoire. Est-ce une lettre très longue ou est-ce une lettre très courte? Parce que dans l'édition que l'on a là sur la table, elle fait tout de même 130 pages. Mais en manuscrit, c'est peut-être plus court, je ne sais pas.
Non, c'est la même chose. C'est une lettre abondante.
Voilà.
Aimait beaucoup le système des lettres. Et donc, à côté de l'épître lamentable et consolatoire qu'il a adressé à Philippe Le Hardy, il a écrit une autre lettre. Il a écrit une autre lettre à Richard II, une autre lettre qui, là aussi, est un manuscrit unique, conservé à la British Library, pour l'inviter à se réconcilier avec Charles VI avant de se lancer dans la croisade. Donc, voyez-vous, c'est son habitude de longues lettres où il expose en long et en large ses projets en espérant l'adhésion du destinataire.
Merci Philippe Contamine de nous avoir fait découvrir ce personnage très emblématique finalement du XIVe siècle, comme vous nous l'avez montré, qu'on découvre avec grand plaisir. Je ne dis pas qu'on lit le livre de A à Z, parce que c'est tout de même un peu difficile.
C'est une langue qui est une langue du XIVe.
Voilà.
Assez fleurie, mais enfin du XIVe.
Mais en tout cas, on lit votre introduction, en tout cas, et votre présentation de ce Philippe de Mézières avec un grand intérêt. Merci infiniment
c'est
et à bientôt.
Merci.